Oui, je voudrais ajouter trois points à ce qu'a dit Daniel, peut-être avec une vision légèrement différente, mais pas contradictoire, différente, tant il est vrai qu'il y a beaucoup de visions d'un même sujet. Je penserais que le chrétien pourrait être ébranlé, premièrement, par la banalisation du mal autour de lui, deuxièmement, par les épreuves de la vie, et troisièmement, et là ça va vous surprendre, par l'Église. Donc, première chose qui peut nous ébranler dans notre vie chrétienne, c'est à l'heure actuelle, et surtout les jeunes, mais pas forcément que les jeunes, c'est la banalisation du mal autour de nous. Et on peut prendre plusieurs versets, mais je choisis ce verset du psaume 73, justement, psaume d'Asaph, psaume 73, verset 2. Et pour moi, dit Asaph, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne m'aient manqué, d'un rien que mes pas n'aient glissé, car j'ai porté envie aux arrogants voyant la prospérité des méchants. On pourrait penser aussi à ce verset des Évangiles où le Seigneur Jésus dit, parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. Quand l'iniquité prévaut autour du chrétien, c'est pas facile. Il risque d'être ébranlé. Vous voyez, vous avez l'image de celui qui marche et puis tout à coup il heurte, il s'en est fallu de peu que mes pieds n'aient glissé. Ou alors une plaque glissante. Et c'est la chute. Il s'en est fallu de peu, dit Asaph. Il n'est pas tombé, mais. Et parfois, nous sentons qu'il s'en faut de peu aussi. Nous sommes ébranlés dans notre stabilité spirituelle. Et je parle spécialement aux jeunes. Par exemple, déjà au collège et au lycée. Tout le monde a sa petite amie, son petit ami, et chacun couche gentiment ensemble, comme ça, sans engagement, sérieux. Bon. Alors, on voit ça, au fil des mois, des années, on se dit au bout de quelques années, mais on se dit, mais je suis un pauvre imbécile. Moi qui, encore en 2009, a le désir et le désir de rester vierge jusqu'au mariage, mais je m'épuise à un combat d'arrière-garde. Déjà, la cabane des haillis commence à être ébranlée. C'est pas la chute, mais on est ébranlé parce qu'on voit. Je m'épuise à un combat d'arrière-garde. Est-ce qu'il est vraiment d'arrière-garde? C'est pas sûr. Il y a parfois des indiscrétions qui nous montrent la face cachée de cette soi-disant belle liberté, en l'occurrence. Il y a quelques mois, j'entendais une dame d'un certain âge, elle racontait que toutes ses aventures avec ses hommes pendant sa vie. Et oh, elle a dit, à mon âge, on culpabilise plus. Mais si vous saviez toutes les fois que j'ai pleuré après un acte sexuel avec un homme. Ah bon? Et puis, elle disait qu'elle avait fait une enquête auprès des jeunes filles, et c'était pareil, il y en avait un bon nombre qui avaient pleuré. Ah oui? Et ça se passe comme ça dans la vie conjugale? Régulière? Pensez-vous, n'importe quoi. Vous savez, les jeunes, le plan de Dieu, ça tient la route. Un homme, une femme, une vie, ça tient la route. C'est pas toujours facile. Il faut beaucoup d'applications. Mais la pensée de Dieu tient la route. Et à moins, je m'adresse spécialement aux jeunes, à moins que vous ne soyez convaincus de la pensée de Dieu, vous serez un jour ou l'autre ébranlé. On a dit jeudi cette parole importante, que la conviction du chrétien, c'était sa richesse. Il nous faut être convaincus de la pensée de Dieu. Alors comment être convaincu? Il me semble qu'il y a trois stades. On trouve ça dans Timothée. Et Paul dit à Timothée, les choses que tu as entendues de moi, il faut les entendre. Bon. Et après, il dit, tu as pleinement compris ma doctrine, il faut la comprendre. Et après, tu as été pleinement convaincu. Ce n'est pas sûr du tout que, comme ça, une conviction nous tombe dessus. Bon, il y a peut-être un trait de lumière qui un jour va arriver, tant mieux. Mais une conviction, ça se forge. Et on progresse. Les choses que tu as entendues, il faut les entendre, il faut les comprendre, et il faut en être pleinement convaincu. Et encore une fois, à moins que vous ne soyez pleinement convaincu de la pensée de Dieu, en l'occurrence sur cette chose, mais ça peut être sur autre chose, eh bien, vous serez ébranlé. Parce que la pression est trop forte. Elle est du côté du monde, et puis nous, on est fragiles. Et surtout, nous les hommes, dans ce domaine. Enfin, fragiles, vous savez la formule. Le sexe faible et le sexe fragile. Donc, on est à peu près. C'est à peu près pareil. Alors, une conviction qui nous vient de la parole de Dieu, mais une conviction, ça ne suffit pas. Il nous faut à côté vraiment le soutien divin. Il s'obtient par la prière aussi. Une conviction fondée sur la parole de Dieu. Les gens autour de nous, ils ne savent plus où ils en sont, mais parce qu'ils n'ont pas de référence, ils n'ont pas de conviction fondée sur la parole. Comme on l'a dit, je dis, c'est le relativisme. Ben, la vérité, c'est ce que je pense. Et si l'autre pense autrement, ça n'a pas d'importance. Mais qu'est-ce que Dieu en pense? Alors, il nous faut revenir, peut-être que nous sommes allés dans la mauvaise voie. Bon, eh bien, il nous faut revenir à la pensée de Dieu, parce qu'encore une fois, la pensée de Dieu tient la route, c'est la sagesse pour nous. Et c'est la stabilité. C'est la stabilité de nos couples. Et au départ, on bifurque, on va dans une mauvaise direction. Les gens ne se rendent pas compte qu'avec toutes leurs aventures, avant le mariage, ils hypothèquent déjà sur une union. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, après toutes leurs aventures, ils disent, bon, à l'âge de 30 ans, il faut quand même, je me stabilise un peu sur la même personne. Oui, mais ils ont hypothéqué. Alors le couple, ça ne va pas marcher. Le chrétien peut être déstabilisé aussi dans son couple. Là, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais déstabilisé par des faux raisonnements. Et là, je ne résiste pas à vous raconter une petite histoire plaisante, mais qui contient une grande leçon. C'est une dame relativement âgée qui est venue voir un conseiller conjugal, Gérard Ducrozet, celui qui a écrit le livre « Parlez-moi d'amour ». Et cette dame lui a dit, vous savez, quand j'étais jeune, il y a bien longtemps, il y a deux garçons qui m'ont fait la cour. Bon. Et puis finalement, je me suis marié avec l'un des deux. Bon, on est resté 40 ans ensemble, 40 ans de vie conjugale. Oh, ça n'a pas été une réussite. Non, j'aurais dû me marier avec l'autre. Et Gérard Ducrozet lui a dit, mais madame, vous oubliez une chose, c'est que pendant 40 ans de vie conjugale, on a le temps d'avoir des tensions et des disputes. Tandis que l'autre, il est resté sur son piédestal. Ah, là, c'était sans problème avec l'autre. Et c'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens, et nous pouvons, nous aussi, nous laisser tromper en disant, avec telle personne, ah, ça serait beaucoup plus facile. Ben non. Non, non. Parce que l'autre personne, elle n'est pas dans les problèmes et les tensions de la vie. Elle est sur son piédestal. Vous voyez comment un couple peut être ébranlé par des faux raisonnements? Bon. Alors, deuxième chose qui peuvent ébranler le chrétien, je dis bien ébranler, c'est vrai que tout le monde a pensé, peut-être ceux qui connaissent particulièrement leur Bible, au psaume 63, il est dit, David dit, je ne serai pas beaucoup ébranlé, je ne serai pas ébranlé parce que mon appui est en Dieu. Oui, bah, d'accord. Mais ce n'est pas si simple. Donc, le deuxième point que j'avais à cœur, c'est on peut être ébranlé par les épreuves de la vie. Je classe, j'ai l'habitude de classer en sens des épreuves des chrétiens en deux grandes catégories. Les épreuves choc et les épreuves usure. Qu'est-ce que vous préférez sur votre voiture qui est pleine de bosses et que l'arrière soit un petit peu enfoncé, le côté aussi, la portière, puis de l'autre côté, elle a reçu des chocs ou alors de l'usure. Et c'est pas évident. Parce que vous savez, l'usure, ça ne se voit pas. La voiture est propre, comme on dit. Elle est belle. C'est tout usé. Eh bien, il y a comme ça dans la vie du chrétien, des épreuves choc et des épreuves usure. Et je ne voudrais pas trancher quelles sont les plus difficiles à traverser. Non. Il y a des épreuves choc. On est ébranlé. Par exemple, je pense à... Il ne faut pas jouer sur les mots. Des ébranlements profonds, des grands traumatismes. Je pense à cette sœur, il y a peut-être 60 ans. Elle est morte de chagrin, c'était dans notre région, un peu à une heure d'ici. Elle est morte de chagrin après la mort de son mari et de ses deux enfants noyés dans un étang. Elle n'a pas résisté. Elle a été ébranlée. Tout son être, tout son physique, son psychique a été ébranlé. Je pense à cette sœur aussi qui a développé un cancer après la mort de son mari. C'est l'ébranlement de notre physique, de notre psychisme. Et vous savez, on est tout petit devant ces épreuves choc. Et comment réagirions-nous, par exemple, à la persécution violente? Aucun de nous ne peut le savoir. Aucun. Il nous faut beaucoup d'humilité. Par exemple, des décès subits. Il y en a qui ont connu ça. Je crois qu'il y en a ici aussi. Bon, eh bien, on est ébranlé sur le coup. Et notre physique, notre psychisme peut être ébranlé. Et il faut du temps pour que le Seigneur nous apaise et nous console. Il faut du temps. Le Seigneur guérit ces ébranlements. Et puis, ces épreuves usure qui vous accompagnent pendant des années et des années. Mais l'usure, justement, ces épreuves usure, ça ne se voit pas. Non, parce que les épreuves choc, tout le monde le sait. C'est traumatisant même pour le peuple de Dieu. Mais les épreuves usure, non. Même ceux, quand on le sait qu'il y a une épreuve usure dans la vie d'un chrétien, on ne va pas, chaque fois qu'on le rencontre, on ne va pas lui parler de son épreuve. Mais non. Non, on porte ça seul. Seul avec le Seigneur. Pendant des années, parfois des dizaines d'années. Et c'est difficile. On peut être déstabilisé, on peut être... Oui. Ça nous use aussi le physique, le mental. Vous savez, les ébranlements, finalement, c'est un sujet très, très sérieux. Il ne faut pas être trop radical. Parce que, par exemple, quand on perd le sommeil après un traumatisme, bon, ben, vous êtes ébranlé quand même, votre sommeil est ébranlé. Et Paul en parle, des ébranlements. Je n'ai pas cité le verset, dans l'épître aux Thessaloniciens. Thessaloniciens 3, verset 1. C'est pourquoi, n'y tenant plus, dit Paul, nous avons trouvé bon d'être laissés seuls à Athènes et nous avons envoyé Timothée, notre frère et compagnon d'œuvre sous Dieu, dans l'évangile du Christ, pour vous affermir et vous encourager touchant votre foi, afin que nul ne soit ébranlé dans ces tribulations. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Ébranlés. Alors, j'ai parlé des ébranlements physiques, psychiques, et encore une fois, nul d'entre nous ne peut dire qu'à ce niveau-là, il ne sera pas ébranlé. Il ne faut pas jouer au caïd, là. Parce que nous sommes tout petits quand des grands traumatismes nous arrivent, qui que nous soyons. Mais Paul situe ici le problème au niveau de la foi. Ébranlé quant à la foi. Et c'est confirmé par ce que le Seigneur dit à Pierre, dont tu as parlé, Daniel. Il a dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Parce que justement, dans les épreuves de la vie, Satan cherche à toucher quoi ? Notre foi. La foi, c'est le cœur de notre vie chrétienne, notre confiance en Dieu. Et il ne va pas attaquer des choses subalternes. Il ne va pas nous attaquer au sujet du millénium, parce que de toute façon, bon, ça ne change pas notre vie. Si deux chrétiens ont des pensées différentes sur le millénium, ça ne va rien changer. Mais il va attaquer le cœur de notre vie chrétienne, la foi. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et Paul, Il était en souci pour les Thessaloniciens. Bon, il envoyait une délégation pour voir si les Thessaloniciens n'avaient pas sombré quant à la foi, leur foi n'avait pas été ébranlée par ces tribulations, par la persécution violente. Et dans toutes les épreuves de la vie, pour les jeunes, ça peut être l'échec à un examen, ça peut être un appartement qui nous passe sous le nez qui était intéressant, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être beaucoup de choses, un accrochage de voiture, enfin, tout. Eh bien, une perte d'emploi, justement, à l'heure actuelle, c'est très actuel, ou notre compte en banque qui est dans le rouge, etc. Eh bien, Satan va s'en servir pour essayer de toucher le cœur de notre vie chrétienne, c'est-à-dire notre foi en Dieu. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Parce que c'est ça qui est important. D'ailleurs, quand il sera dit dans Timothée, ils ont fait naufrage quant à la foi. Mais alors, comment? Puisqu'il y a ébranlement, mais il y a aussi stabilité dans le sujet. Comment rester stable dans les épreuves de la vie? Eh bien, qu'est-ce qui est solide? C'est l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu, je ne dois pas le mesurer à l'aune de mes circonstances. Parce que là, je vais être ébranlé. Ben oui, parce que les circonstances sont favorables, oui. Alors, je suis conscient de l'amour de Dieu. Et puis, si elles sont défavorables, ben, est-ce que Dieu m'aime, quoi? Eh bien, non. Non, non. Si nous raisonnons comme ça, nous sommes perdus. Nous sommes déstabilisés. Je suis sûr de l'amour de Dieu pour moi, pas parce que mes circonstances sont bonnes, pas parce qu'il fait soleil aujourd'hui, mais parce qu'il m'a donné Jésus. Je mesure l'amour de Dieu au don qu'il m'a fait, ça, c'est inchangeable, c'est intouchable, c'est un roc, c'est la stabilité même. Ce n'est pas nous qui sommes stables, c'est ce sur quoi nous nous appuyons, c'est-à-dire Dieu. On a dit cette belle phrase qui résume un peu tout finalement. Je peux trembler sur le rocher, mais le rocher ne tremble pas.